France Info.
Et à la une de ce premier journal de la journée, le gouvernement qui promet une loi d'urgence pour calmer la colère agricole. Les syndicats, eux, comptent maintenir leur mouvement. À la une également, Marine Le Pen qui reconnaît à demi-mot une faute à son procès en appel dans l'affaire des assistants parlementaires. La Russie alliée de Téhéran bien silencieuse face à la situation en Iran et face aux menaces d'interventions américaines. L'OM qui élimine Bayeux, le dernier club amateur encore en lice en Coupe de France de foot. Et puis il nous a quittés il y a 40 ans jour pour jour, mais la musique de Daniel Balavoine continue de résonner. La politique de l'eau, la question du loup et des moyens de production, voilà, sur tous ces sujets chers aux agriculteurs, le gouvernement propose une loi d'urgence agricole d'ici mars. Tout cela pour apaiser la colère d'une très grande partie de la profession mobilisée depuis des semaines maintenant. Des agriculteurs sont par exemple restés toute la nuit devant l'Assemblée nationale à Paris et ils ne sont pas convaincus par cette annonce de l'exécutif. Luc Smesser est le vice-président de la FNSEA.
Comment on passe des paroles aux actes quand elle dit que les agriculteurs ont une pression morale qui est terrible avec ce carcan administratif, on a administré l'agriculture, avec cette pression sur les prix qui sont liés à tous ces effets européens, accord du Mercosur, taxe Trump. Et finalement, je suis pas sûr qu'il y ait besoin d'un Tour de France. Il y a surtout besoin, c'est de passer rapidement à des éléments concrets. Et si on n'a pas levé, c'est parce que les agriculteurs, quand ils entendent ça, ils se disent « on nous le refait comme il y a deux ans, on nous fait des promesses ». Mais derrière, il y a énormément d'attentes pour que demain, on retrouve un peu de sérénité.
Un Tour de France, c'est ce que promet la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, qui sera sur France Info, que vous pourrez entendre dans une demi-heure. Encore des actions attendues aujourd'hui des agriculteurs. Une quinzaine de tracteurs de la coordination rurale venus du Gers ont d'ailleurs réussi à entrer dans le centre de Toulouse, malgré une interdiction de la préfecture. Autre mobilisation prévue aujourd'hui sur l'A50, autoroute entre Marseille et Toulon, au niveau de l'Acadie. C'est le deuxième jour d'audience aujourd'hui pour Marine Le Pen. Elle est rejugée en appel dans l'affaire des assistants d'eurodéputés du RN. En première instance, souvenez-vous, la patronne des députés du Rassemblement National avait écopé de 4 ans de prison, dont 2 fermes, et surtout de 5 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate, ce qui la prive pour l'heure d'une présidentielle en 2027. L'enjeu donc pour elle, c'est de retrouver la possibilité de se présenter. Et hier, Pierrick Bonneau, devant les juges, Marine Le Pen a laissé entrevoir un début d'inflexion dans sa ligne de défense.
Quelques phrases prononcées à la barre en toute fin d'audience sous les boiseries de la première chambre du palais de justice de Paris. La présidente demande aux prévenus s'ils souhaitent exprimer les raisons de leur appel. Marine Le Pen, longue veste bleue, s'avance à la barre. « Si un délit a été commis, je veux bien l'entendre. Nous n'avions aucun sentiment de l'avoir commis lorsque nous avons embauché et mutualisé nos assistants parlementaires. » Fini les dénégations de première instance. La patronne des députés du RN reconnaît à demi-mot une faute, mais cible directement le Parlement européen qui n'a, selon elle, pas joué ce rôle d'alerte tel qu'il aurait dû le jouer. Marine Le Pen termine sa déclaration liminaire en promettant de donner les explications sur l'ensemble du dossier. Pas un regard à la presse à la sortie de la salle d'audience. Elle s'était épanchée dès les premières heures devant les journalistes en première instance. Un nouveau procès s'est ouvert, avec visiblement une nouvelle méthode.
Merci Pierrick Bonneau. Un adolescent de 16 ans a gravement été blessé à Villalbe, dans l'Aude, après plusieurs refus d'obtempérer, selon les forces de l'ordre qui ont ouvert le feu et l'ont touché au thorax. Il est en urgence absolue. Lui était le passager. Le conducteur, âgé de 15 ans, lui dirigeait sa voiture vers 3 fonctionnaires de police, selon le parquet. Nous agirons de manière très forte, prévient Donald Trump aux États-Unis en cas d'exécution de manifestants en Iran. Avertissement du président américain au régime des Mollahs qui réprime durement un mouvement de colère depuis plus de 2 semaines maintenant. Plus de 700 personnes sont mortes au total, au moins selon le bilan d'une ONG de référence. Et tous ces événements sont observés de près du côté de Moscou, avec un peu de nervosité sans doute. La Russie est un des alliés du régime des Mollahs. Elle s'en est rapprochée énormément ces 4 dernières années, depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Les deux pays sont les plus sanctionnés du monde. Ils ont développé des partenariats. Le Kremlin a évidemment besoin d'alliés, mais il risque d'en perdre un nouveau et il ne semble pas pouvoir vraiment influencer la situation, Sylvain Tronchet.
Signe clair d'un vrai malaise à Moscou, aucun dirigeant russe de premier plan ne s'est exprimé sur la situation en Iran. Seul, l'ancien ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, a condamné une tentative d'ingérence dans les affaires intérieures iraniennes, mais pas plus que pour le Venezuela. Le Kremlin ne semble décidé à se mouiller pour venir au secours d'un pays qu'il présentait pourtant il y a peu comme un allié stratégique. L'Iran et la Russie ont développé de nombreuses collaborations, militaires notamment, ces quatre dernières années, mais le fait est que Moscou, englué dans la guerre en Ukraine, n'a ni les moyens ni vraiment d'intérêt à s'opposer à Washington sur ce dossier. La Maison-Blanche a durci le ton ces derniers jours à l'égard de la Russie, condamnant l'utilisation d'un missile Oreshnik en Ukraine et accentuant la pression sur les exportations de pétrole russe. Après Bachar el-Assad et Nicolas Maduro, c'est comme si Moscou s'était déjà résigné à perdre un allié.
Merci Sylvain Tronchet, correspondant de France Info en Russie. Aux États-Unis, Claudette Colvin est morte à l'âge de 86 ans. Elle était une figure du mouvement des droits civiques en 1955, avant Rosa Parks, alors qu'elle n'avait que 15 ans. Elle avait refusé de céder son siège dans un bus de l'Alabama, où la ségrégation raciale était toujours en place. France Info, il est 5h06, c'était le dernier petit club en lice, c'est ce qui fait tout le charme d'ailleurs de la Coupe de France, les petits clubs contre les grands. Mais le FC Bayeux a été hier soir balayé par l'Olympique de Marseille, éliminé à Caen après une lourde défaite, 9-0 en 16e de finale. Le rêve est donc passé, Jean-Pierre Blimeau, mais le club normand et ses supporters ont évidemment vécu une soirée inoubliable.
Ils sortent du terrain avec une valise pleine de buts, mais avec le sourire et des remerciements. Les joueurs bayeuxins savaient qu'un exploit était quasiment impossible. À l'image du défenseur Quentin Maillette, ils voulaient surtout profiter de tout, même en cas de lourde défaite.
C'est juste incroyable. Rentrer dans un stade où on a 21 000 personnes qui nous encouragent, c'est juste exceptionnel. C'est des souvenirs qui vont rester gravés à vie, des images qu'on n'oubliera jamais de nos vies.
Il faut dire que le stade habituel du club de Caen avait été transformé en chaudron aux couleurs du FC Bayeux. Ça aussi, le capitaine Grégoire Delain ne pourra jamais l'oublier.
Ouais, il était bleu et jaune. Ça m'a fait chaud au cœur, ça m'a mis les frissons tout le match, même les supporters marseillais, au final, à la fin, on a été les applaudir, ils nous ont applaudi, donc grand respect, et c'était top.
Une aide d'honneur a même été mise en place par les joueurs marseillais, qui ont ensuite accueilli les Bayeuxins dans leur vestiaire, souligne le gardien du FC Bayeux, Oscar Le Canu.
On en parlait avec les gars, ils ont vraiment pris le temps de rester sur la pelouse, de venir nous checker, nous donner un maillot, ça va faire plaisir au petit frère qui est fan de Marseille, franchement, super cool.
Très fier de ses joueurs et de son club, le président du FC Bayeux a également remercié l'OM qui a offert sa part de recette.
Merci Jean-Pierre Blimeau. Et puis il nous quittait il y a 40 ans, jour pour jour. Daniel Balavoine, qui mourait dans un accident d'hélicoptère sur le Paris-Dakar, il continue de vivre au travers de ses chansons, au travers de la passion de ses fans, mais aussi de Morgan Marley. Rencontre avec cet artiste de Saint-Brieuc qui parcourt les scènes de toute la France et réinterprète le répertoire de Balavoine, Loïc Guélec. Le groupe s'appelle L'Essentiel des Baies.
Morgan Marley appréciait déjà l'artiste de son vivant.
Quand j'ai découvert Daniel Balavoine, j'étais gamin, il m'a marqué tout de suite. C'est bien plus tard, quand je suis devenu chanteur, c'est quelqu'un qui a beaucoup influencé ma carrière et puis qui m'a donné envie de l'interpréter rapidement.
J'aimerais mieux être un oiseau. Je suis mal dans ma peau.
Morgan Marley se lance très vite dans une carrière de musicien. Il initie plusieurs projets avant de créer en 2018 L'Essentiel des Baies, comme Daniel Balavoine. Le chanteur est entouré de 5 musiciens et se produit depuis plusieurs années dans des salles, des bars ou des festivals.
Pourtant, il faut vivre ou survivre.
On reste très fidèle quand même aux originaux, tout en y apportant une petite touche personnelle, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'imitation. Moi, je ne cherche pas à lui ressembler ni vocalement, ni physiquement.
La voix puissante de Daniel Balavoine, mise au service de textes engagés, impose beaucoup de travail pour tous ceux qui veulent interpréter ses chansons en public. Morgan Marley a relevé le défi.
Ah oui, c'est une voix exceptionnelle. D'ailleurs, moi, je n'ai pas la même tessiture de voix que Daniel Balavoine. Je suis obligé de composer beaucoup pour essayer de garder les intonations, on va dire. J'ai donc dû travailler beaucoup pour essayer d'arriver à un résultat probant, on va dire.
Et partout dans la rue, je veux qu'on parle de moi, que l'ennemi soit nu, qu'elle se jette sur moi, qu'elle m'appelle.
Voilà les deux voix qui se mêlent, celle de Morgan Marley et de Daniel Balavoine, dont vous étiez évidemment une immense fan, chère Christine Peña. Vous êtes de retour
du Sud-Ouest d'ailleurs.
Du Daniel. Sud-Ouest, évidemment. Ça me rappelle quelqu'un. Vous l'appelez Daniel, oui. Mais vous oui. connaissiez personnellement. Bon, alors Christine Peña, qu'est-ce qui nous attend dans la météo aujourd'hui?
Eh bien, écoutez, nous avons ce flux d'Ouest, toujours des nuages qui défilent. Alors peu de pluie, hein, tout au plus de la bruine, un peu de vent dans le sud d'ailleurs, autour des Cévennes, sur les Pyrénées aussi. On a toujours cette douceur qui reste en place. Pas de changement d'ailleurs par rapport à hier. Hein, même température à peu près. Hier, on a connu les premiers 20 degrés de l'année. Et où ça? Bah, près des Pyrénées, Pyrénées Atlantiques. 22,7 à Oloron-Sainte-Marie. Et localement, vous avez gagné bien 30 degrés par rapport à la semaine dernière.
Vous êtes toujours obligé de parler du Sud-Ouest. Ça se voit, ça commence à se voir, Christine Peña. Merci beaucoup. On vous retrouve juste avant 5h30.